BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Étienne Brack.
Pour BFM Bourse, il est 16h04, on est ensemble jusqu'à 18h. On va rentrer dans un instant dans le vif du sujet, dans le vif de la séance, même avec un CAC 40 qui est parfaitement stable, qui se maintient haut de Kersulek grâce notamment aux résultats d'entreprise qui continuent d'animer la séance.
Oui, c'est vrai qu'il y a une star aujourd'hui sur le CAC 40, c'est L'Oréal, avec un titre qui s'arbitre à plus de 5% de hausse, hein, des bons résultats applaudis. Oui, mais voilà, ça suffit pas pour vraiment faire décoller le CAC 40, puisqu'on monte péniblement de 0,1% pour le moment. On maintient à peine les 8000 points, 8033 points, mais c'est quand même difficile cette fin de semaine.
C'est difficile, mais il est dans le vert, le CAC 40, malgré une nuit qui a été compliquée d'un point de vue géopolitique. Le CAC 40 qui est sur les plus hauts niveaux de la séance, Wall Street qui est en ordre dispersé. Que faut-il penser des niveaux actuels? On reviendra bien sûr tout au long de l'émission sur les niveaux actuels des marchés. Est-ce qu'ils prennent en compte ou pas les risques géopolitiques? On vous pose la question sur notre fil LinkedIn et Twitter. Et puis, au de parler de L'Oréal, on va aborder tout de suite cette question avec Abdel Redjeb. Et puis, à 17h35, il y aura un match autour de L'Oréal. Faut-il acheter la valeur malgré son prix? Il y aura un duel entre notamment les équipes de BFM Bourse et puis notamment les équipes de Inextenso. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 18h, c'est BFM Bourse.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Dans un instant, on rentrera dans le vif du sujet avec cette publication de L'Oréal qui est bien arbitrée avec Abdel Redjeb qui nous attend depuis Montségur Finance. Mais avant, Aude Kersulek, quand même un mot sur le CAC 40 qui, mine de rien, a retrouvé aujourd'hui les 8000 points.
Oui, alors on les avait déjà retrouvés hier en clôture, mais c'est vrai qu'on peut quand même se satisfaire de ce vert, ce territoire positif pour le CAC 40, parce que le contexte est tout de même difficile. Il y a les tensions géopolitiques qui n'arrivent pas à nous plomber le moral. Les investisseurs, ils voient pas très clair tout ce qui s'est passé cette nuit du côté de l'Iran. On a les propos des banquiers centraux américains qui peuvent s'exprimer encore jusqu'à demain. Et les derniers ne nous font pas franchement plaisir. Quand on a un John Williams qui nous dit qu'on pourrait monter les taux d'ici à la fin de l'année, c'est quelque chose qu'on n'avait pas franchement attendu avant. La volatilité est remontée. On est à au-dessus de 18 points pour le VIX. Et puis à noter d'ailleurs que c'est une séance technique aujourd'hui puisque c'est la séance des trois sorcières, donc débouclage de produits dérivés. Donc ce CAC 40 qui reste positif sur la semaine quand le S&P 500, lui, perd 2%, plus de 2% sur toute la semaine, c'est quand même pas rien finalement et c'est quand même un signe de résilience. Alors à l'intérieur du marché parisien d'ailleurs, il y a des très bonnes choses, puisque L'Oréal, après sa publication de premier trimestre hier, est largement applaudi, plus 4,9%, 444 euros, après cette croissance de 8,1%, donc au premier trimestre, a donné comparable pour le chiffre d'affaires, une croissance qui s'appuie quand même à plus d'un tiers sur les volumes et plus de deux tiers sur l'effet prix. Donc encore une fois, les hausses de prix, l'inflation. Et d'ailleurs, on a eu un chiffre macro ce matin sur les hausses de prix. C'est en Allemagne, les prix à la production qui ont augmenté depuis le mois dernier de 0,2% quand on s'attendait à une stabilité totale et qu'il était en repli le mois dernier. Donc c'est aussi quelque chose qui pourrait revenir sur le devant de la scène, la persistance de l'inflation en Europe. Et du côté des valeurs qui baissent, on a Edenred qui perd 3,9%. On était en hausse hier, il y a des prises de profit. Et puis Renault qui perd 1,3%. Il y a eu un avertissement sur résultat du côté du Japon, du côté de Nissan. Et forcément, ça impacte le constructeur automobile.
Et donc le CAC 40 qui est en hausse, plus 0,2%, 8039 points. Quels sont les niveaux techniques à surveiller? Nous serons dans un peu plus de 20 minutes avec Andrea Tueni. Alors que, comme vous venez de le dire, Aude, c'est une séance importante avec les sorcières qui passent tout au long de cette séance. Abdel Redjeb est avec nous depuis Montségur Finance. Bonjour Abdel, merci d'être avec nous afin de nous éclairer sur les publications marquantes du jour avec en effet L'Oréal qui monte malgré des ventes en Chine qui continuent de se faire pas attendre parce qu'elles sont supérieures au consensus mais qui continuent un petit peu de décevoir la zone Asie-Pacifique.
Bonjour Étienne, effectivement c'est une belle publication de L'Oréal au-dessus des attentes. Elle est tirée notamment par le marché nord-américain et les produits de dermatologie de manière générale avec plus de 20% de croissance. En revanche, la partie luxe, elle affiche une croissance très faible, entre 1 et 2%. Le marché réagit positivement à cette publication car elle était assez sceptique. L'action, elle a gagné que 3%. Elle était en baisse de 3% avant la publication dans un marché globalement aussi, qui était à plus 7 depuis des années depuis hier. mais pas mal de craintes des investisseurs sur le ralentissement de la croissance, notamment après l'avertissement de Ulta Beauty aux USA, qui est un distributeur de produits cosmétiques, qui mettait notamment en garde sur une forte intensité promotionnelle. Donc sur le call de résultats, on apprend que la Chine reste une zone difficile, effectivement, ça le management de L'Oréal l'a dit, il l'a confirmé, et que la partie mass market aux USA, elle connaît quelques pressions, donc ce qui est concordant avec les propos d'Ulta Beauty. Personnellement, à 34 fois les résultats, dans un contexte de marché assez tendu, comme vous venez de le souligner, je resterai à l'écart de la valeur.
À l'écart de cette valeur, 444 euros, c'est une hausse de 4,8%. Puis le CAC 40 peut vraiment dire merci à L'Oréal parce que sans cette hausse, il serait probablement dans le rouge. Du rouge, il y en a aujourd'hui pour Essilor. Alors là, c'est plus compliqué d'un point de vue boursier. C'est l'une des plus fortes baisses du CAC 40.
Oui, effectivement, Essilor, il y a eu une publication de résultats aussi. Elle est légèrement inférieure aux attentes, notamment... La bonne surprise, c'est l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est inférieur aux attentes. Et la bonne surprise vient de l'Europe, pour une fois, qui est aidée par l'intégration de Grand Vision et donc des ventes retail qui viennent booster les ventes. Le management a tenu des propos très optimistes, comme à l'accoutumée chez Essilor, sur les trimestres à venir. Il ne voit pas de croissance, de décélération de la croissance. Au contraire, il voit une croissance qui continue, qui serait boostée par le lancement de nouveaux produits et une hausse des prix généralisée qui va se matérialiser selon eux au deuxième trimestre. Personnellement, j'ai du mal à être enthousiaste, surtout à ce niveau de valorisation. 28 fois les résultats, on est au plus haut, on est largement au-dessus de la moyenne de 2 ans. Ça laisse peu de place à l'erreur. Pour moi, Essilor est correctement valorisé et pour l'instant, il n'y a rien qui justifie une révision à la hausse de mes prévisions ou de celles des analystes.
Et donc, sur le carrefour BFM Bourse, vous êtes à orange. Hein, donc, maintien, c'est ça, sur les statuts de marché. Hein, neutre sur Essilor qui perd 0,6% à 203 euros. Haute-Kersulec, Haute-Blader qui fait l'actualité hors CAC 40. Bah, c'est la galaxie Sodexo, avec notamment Pluxi qui est rentré en bourse en début d'année. Et la première publication se passe bien.
Oui, première publication semestrielle donc pour Pluxi, l'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo. Notamment parce qu'on a relevé les objectifs de croissance organique et puis d'EBITDA. Alors déjà l'EBITDA du premier semestre, il s'est établi à 201 millions d'euros. Si on compare avec ce qui se faisait avant, c'est une hausse de 28% sur un an, donc en croissance organique. Et donc, vu ces bons résultats, eh bien Pluxi qui relève ses objectifs, notamment sur la marge d'EBITDA EBITDA récurrent qui est attendu à 35% quand c'était 34,5% avant. Voilà, ça signale que les investisseurs aiment bien en général et qu'ils accueillent favorablement. C'est le cas aujourd'hui puisque Pluxi, c'est la première place du SBF 120. On gagne 7,5% à 27,32 €.
Merci beaucoup, Aude Kersulec, qui nous accompagnait depuis Euronext. Est-ce que c'est mérité cette hausse, Abdel Redjeb, de Pluxi de plus de 7%?
Elle est tout à fait méritée. C'est une très belle publication. C'est la première d'ailleurs depuis l'IPO pour Pluxi, comme le souligne Aude. Et ce genre de publications sont très attendues. Il faut absolument pas décevoir juste après la cotation. Il faut rassurer les investisseurs, notamment ceux qui sont rentrés lors de l'IPO. La croissance organique du chiffre d'affaires, elle est largement au-dessus des attentes. Une bonne rétention des clients, un gain des nouveaux clients. La génération de cash, elle est aussi remarquable. Dans les business comme Pluxi ou comme Edenred, ils sont en position de cash net positive qui est placée et qui génère donc des revenus d'intérêt. Dans un contexte de taux assez élevé qu'on connaît, c'est plutôt agréable. La guidance de chiffre d'affaires et de marge, elle a été relevée dès le premier trimestre, en plus sur l'IPO, enfin post-IPO. En termes de valorisation, il y a un léger discount versus Edenred, mais Edenred et Pluxi sont des valeurs très déprimées, notamment après les déboires qu'a connu Edenred. Donc plutôt acheteur sur les deux titres et j'attends un rating sur les deux valeurs et acheteur sur Pluxi.
Acheteur donc sur Pluxi qui est aujourd'hui l'une des plus fortes hausses du SBF 120. Merci beaucoup Abdel Redjeb de nous avoir accompagné en direct sur BFM Business, gérant chez Monségur Finance. Merci également à Aude Kersulec que l'on retrouvera tout au long de cette émission avec un CAC 40 donc qui renoue avec les 8000 points grâce notamment à L'Oréal, même s'il est pénalisé par une valeur. Ce CAC 40, c'est Schneider Electric qui perd 2,4%. C'est une grosse pondération de l'indice, un titre qui baisse aujourd'hui après avoir engagé des discussions avec Bentley Systems. Grosse capitalisation boursière, plus de 15 milliards de dollars. Et donc, par rapport à cela, le marché est un petit peu réticent, même si pour l'instant, rien n'est fait. Schneider Electric confirme des discussions. Mais pour l'instant, on parle juste de discussions préliminaires et aucun deal n'est acté. Tout de suite, c'est l'écho du monde.
BFM Bourse, l'écho du monde.
avec Christopher Dombic qui nous accompagne par téléphone. Bonjour Christopher. Bonjour. Merci de répondre à l'appel de BFM Business. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management avec un marché, comme on venait de l'évoquer, qui est au-delà des 8000 points. Wall Street qui est mitigé, mais il n'y a pas de forte baisse. Non. On a même un euro qui progresse, le pétrole qui se détend très légèrement. Comme on a pu le voir lundi, on a quand même un marché qui est hyper robuste face à une situation géopolitique qui est complexe, encore plus depuis cette nuit avec l'attaque d'Israël vers l'Iran.
Ouais. Si on regarde finalement sur les trois dernières années, au niveau du MSCI World, quasiment 70% du temps, lorsqu'on avait des tensions au niveau du risque géopolitique, au niveau de la guerre en Ukraine ou au niveau du Moyen-Orient, 70% du temps, j'insiste, on était sur une période de hausse du MSCI World. Donc ça vous montre en fait qu'on est vraiment sur une situation où les marchés sont très résilients, que bien évidemment le risque géopolitique peut provoquer des facteurs de tension, on le voit hein, sur certains actifs qui sont un peu plus réceptifs, le pétrole ou encore l'or, mais sur les marchés actions, finalement l'impact est relativement faible et dans la plupart des cas, le risque géopolitique va surtout servir d'excuse pour avoir une phase un peu de respiration du marché. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui très clairement et ce qui s'est passé sur les dernières heures. C'est surtout la bonne excuse parce qu'on a eu une période très longue de forte hausse et donc ça peut constituer le bon moment pour soit prendre des bénéfices, soit entrer sur le marché si on avait raté la période de progression. Donc très clairement, pour moi, le risque géopolitique, il faut jamais exagérer. En revanche, dernier point rapidement à ce sujet, c'est un problème le risque géopolitique pour les marchés financiers lorsqu'on est sur des marchés qui sont peu liquides. Qu'est-ce que j'entends par là ? Notamment lorsqu'on avait eu la guerre en Ukraine, au tout début, vous aviez eu quasiment finalement le marché du gaz qui n'était plus du tout opérationnel. Il faut bien prendre en considération que le marché du gaz, c'est finalement un marché pas très très liquide avec peu d'acteurs. Et on avait vu qu'on avait eu des appels de marge qui n'ont pas pu être respectés, les chambres de compensation en difficulté. Mais c'est des marchés qui sont finalement peu liquides sur le marché des actions ou encore quand je vous prends l'exemple du MSCI World. Évidemment, c'est très liquide. Donc le risque géopolitique, tant que ça reste relativement contenu, on n'est pas sur un conflit intense, c'est gérable.
D'ailleurs, on vous pose la question, hein, vous, auditeurs, téléspectateurs, sur BFM Business, sur LinkedIn, sur Twitter, le marché anticipe-t-il correctement le risque géopolitique ? Pour l'instant, c'est non à plus de 60%. Vous auriez répondu quoi, vous, Christopher Dembic, à cette question ?
Non, également, parce que fondamentalement, ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient, ça n'est pas un problème du point de vue des marchés financiers, tant qu'on est sur un conflit qui n'est pas intense et à haute fréquence. Là, on est sur un jeu à la fois politico-diplomatique et militaire, où on essaye de chacun montrer qui est le plus fort. Mais tant que ça reste contenu à ce niveau, il n'y a pas de forte raison d'inquiétude. Je sais, par exemple, que les marchés aiment se faire peur. À chaque fois, on va avoir ce refrain « Et si l'Iran ferme le détroit d'Hormuz ?» Bien sûr, ça peut avoir un impact, mais même pour nous, Européens, depuis 3 ans, on est finalement beaucoup moins dépendant en termes d'approvisionnement pétrolier en provenance du Moyen-Orient qu'on l'est finalement des États-Unis. Donc il faut aussi avoir conscience que la géopolitique de l'énergie, qui est bien évidemment assez réceptive à ce niveau, elle a aussi beaucoup changé depuis la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, le vrai acteur sur le marché de l'énergie, c'est pas tant le Moyen-Orient, en tout cas sur l'énergie fossile, que les États-Unis.
Voilà donc pour le risque géopolitique et puis un autre risque actuellement sur les marchés et pas des moindres et là c'est peut-être un risque plus important pour les marchés actions, c'est le risque monétaire avec des statistiques aux États-Unis qui montrent une économie hyper résiliente, on l'a encore vu hier avec les inscriptions hebdomadaires au chômage et puis surtout mardi de l'aveu même de Jerome Powell qui explique clairement à Washington lors d'un tour de table qu'il n'est pas très à l'aise avec les données actuelles quand même.
Ah, complètement. Je pense qu'il faut être assez humble pour une fois et reconnaître que personne n'anticipait une telle résilience de l'économie américaine et surtout personne, y compris la Fed, et elle le reconnaît bien volontiers, n'anticipait qu'on pouvait avoir une réaccélération de l'inflation. Si vous regardez, vous avez une réaccélération des prix de l'inflation au niveau des prix importés. Vous en avez une aussi depuis 2 mois sur la fameuse boucle prix-salaire. Un Américain qui souhaite changer d'emploi aujourd'hui, il peut prétendre à une hausse de salaire moyenne de 10%, donc c'est massif. Et bien évidemment, ça contrecarre très nettement les plans de la Fed. Alors, on ne fait pas partie de ceux sur le marché qui disent peut-être que finalement, la première baisse des taux, ce sera en 2025. Je pense qu'il y a une question de crédibilité et de gestion des anticipations. On ne peut pas passer de tout à rien. Mais en revanche, indéniablement, ce sera un cycle plus tardif, probablement septembre. Moins de hausse de taux cette année et probablement en 2025. Nous, on anticipe une ou deux baisses de taux du côté de la Fed cette année, donc 50 points de base pour ainsi dire. Ce sera très lent, mais c'est parce qu'on a une économie américaine qui est extrêmement en bonne santé, très résiliente, et c'est en très large partie dû à un déficit budgétaire américain qui est élevé, qui est bien investi et qui va perdurer cette année et même en 2025.
Et comment vous expliquez que le marché encaisse aussi bien ce refrain des taux longs plus élevés plus longtemps ?
Alors, pour une simple et bonne raison, parce que c'est justifié par une économie américaine qui est en très bonne santé et on va être très rapidement fixé, mais je pense que la semaine prochaine, on le saura déjà, aussi par des résultats d'entreprise qui sont solides, avec probablement dans la plupart des secteurs des marges qui sont conformes aux attentes, voire supérieures aux attentes. Donc c'est un peu le scénario idéal. Dans ce contexte-là, une dépression inflationniste à la hausse, c'est pas vraiment un problème, sachant qu'on n'est pas à 9-10% d'inflation.
Merci beaucoup Christopher Dambic de nous avoir accompagné aujourd'hui. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management et donc le CAC 40 qui est au-delà des 8000 points. Du côté de Wall Street, c'est plus mitigé. Le Dow Jones est en hausse de 0,3%. Le Nasdaq, c'est 0,9%, sous pression notamment après la publication de Netflix qui perd 8%. Et puis à noter, le pétrole qui se stabilise au-delà des 87$, plus 0,2%, quand l'euro s'apprécie face au dollar au-delà des 1,06.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et aujourd'hui, on va se pencher sur une thématique, la thématique du sport, avec Nicolas Kieffer qui est avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci de nous accompagner aujourd'hui sur BFM Business. Vous êtes gérant chez Montpensier Finance. Alors, vous gérez un fonds climat et puis aussi un fonds sport. Alors, on va se focaliser sur ce fonds sport, sachant que ça y est, là, le coup d'envoi des JO a été donné en début de semaine avec le compteur des 100 jours. Hein. C'est dans moins de 100 jours, les Jeux Olympiques. Un marché qui, rappelons-le, est quand même assez important dans le sens où il y a des équipementiers. On peut prendre, ça va, des salles de sport, au basket, en passant par des entreprises B2B. Enfin, c'est très large, en fait, hein, ce marché. Exactement. Du sport.
Alors, c'est un marché, justement, qui est très profond, bien plus profond qu'on ne le pense, qui représente plus de 5000 milliards de dollars dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe des taux de croissance estimés à plus de deux fois supérieurs à celui du PIB mondial. On est autour de 8% par an sur les prochaines années. Et cette thématique a connu un véritable bouleversement avec la pandémie mondiale, donc en 2020-21, est passé d'un marché très niche à un véritable style de vie dans le monde entier. Et ça, on l'observe dans toutes les générations, surtout les plus jeunes. Si on prend par exemple les générations, les millennials et les générations Z, on remarque que c'est un véritable moteur pour la thématique, et ce sont des générations dont le lifestyle, le style de vie intègre le bien-être et le sport. Et donc ça, c'est dans la nutrition, etc. C'est important. Ensuite, on va être sur les générations un peu plus anciennes. On va aussi avoir une prise de conscience sur la capacité, en ayant un style de vie actif et sain, de vivre plus longtemps, en meilleure santé. Et donc ça, c'est vraiment un vrai moteur pour la thématique sur les prochaines années, et qui donc va soutenir ces 8% par an sur les prochaines années.
Et c'est une thématique en plus qui a été boostée par la pandémie, hein, dans le sens où à la sortie des confinements, il y a plein de business models qui se sont envolés. On se souvient notamment des salles de sport, par exemple.
Exactement. Sur les équipementiers, effectivement, c'est plutôt évident. Mais effectivement, les salles de sport, c'est un véritable moteur ayant, parce qu'on a observé une explosion de la pratique sportive à travers le monde. Et donc, ces salles de sport ont dû encaisser un volume de nouveaux sportifs à travers le monde, et donc on le voit dans plein de business models sur lesquels on pourra revenir peut-être un peu après.
Après la pandémie, hein, qui était imprévisible, là il y a un autre événement, je le disais, qui est prévisible, ce sont les Jeux Olympiques à Paris. Est-ce que ça va avoir un impact sur ce secteur, dans le sens où il faudra peut-être acheter des équipements pour ces JO, et ça va être un game changer pour certaines entreprises?
Il faut savoir que le sport professionnel dans ce marché de 5000 milliards est assez marginal. Ça représente moins de 10% du marché, mais c'est un véritable moteur pour la pratique mondiale, la pratique amateur. Si on se focalise sur les JO, c'est quand même le sujet. c'est des retombées économiques totales sur tous les secteurs qui sont estimées autour de 6 milliards pour la France, pour 2 milliards d'investis. C'est déjà absolument massif. Pour les équipementiers, donc les géants ou les marques un peu plus émergentes, c'est une occasion aussi de montrer les nouvelles innovations, d'équiper des athlètes de très haut niveau qui vont être regardés par des milliards de personnes à travers le monde. Et donc, ça accroît la notoriété et donc l'attractivité de certaines marques. Et ensuite, sur la pratique, il y a peu de données à ce sujet, mais si on regarde la Coupe du Monde de rugby qui a eu lieu en fin d'année dernière, on a remarqué une hausse de 20 à 30% des inscriptions en fédération, en club, sur l'année 2023. Donc on voit vraiment un véritable moteur à travers ces événements sportifs internationaux.
Et d'un point de vue niveau de marché, est-ce que ça a été anticipé en fait l'arrivée des Jeux Olympiques? Alors ça dépend les acteurs, hein, parce que j'imagine que sur une grosse boîte comme Nike et sur une small et mid cap qui va jouer son année grâce aux JO, l'impact n'est pas le même.
Alors, ces acteurs sont un petit peu victimes de pas mal de tendances dernièrement. Si on se focalise sur les équipementiers sportifs, on a vraiment deux grandes catégories. On a les acteurs historiques, donc les Nike, Adidas, Puma, et on a les nouvelles marques qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années et qui prennent énormément de parts de marché à ces géants du secteur. Et pourquoi ? Parce que les géants ont un peu cessé d'innover sur les dernières années, se sont un peu reposés sur leur laurier, sur leur image de marque très forte, et donc ont vu le train passer en fait avec des nouvelles marques comme On Running en Suisse ou Oka aux États-Unis qui viennent proposer un nouveau produit extrêmement marquant, très très innovant, et qui va équiper aussi bien les athlètes professionnels qu'on verra dans un peu plus d'un mois, comme les populations à travers le monde en lifestyle.
Tout ça. Et quels sont aujourd'hui les secteurs à privilégier dans cette thématique du sport, du bien-être ?
Alors, à travers, donc si on se met sur ce secteur, on va avoir évidemment les équipementiers sportifs, mais on va avoir énormément de secteurs qui vont bénéficier de ces tendances. Donc les clubs de sport, on en parlait, donc ça à travers les géants du secteur comme Basic Fit en Europe ou Sats dans les pays nordiques, qui ont des modèles très très marqués et qui ont su prendre le pas sur la pandémie quand des acteurs de plus petite taille ont pris l'eau, hein, et ont été fortement impactés par la pandémie. Ensuite, on peut aller aussi sur la nutrition sportive, qui est évidemment alignée avec la pratique sportive, puisque une pratique sportive entraîne aussi tout un alignement sur le style de vie, sur la façon dont on s'alimente, etc. Donc ça, à travers des sociétés comme Celsius qui fait des boissons énergétiques, ou Bellring Brands qui fait des boissons protéinées aux États-Unis. Également, faut pas l'oublier, tout ce qui est activité de plein air et par exemple le vélo qui est on va dire avant tout un moyen de transport, mais qui est également un moyen extrêmement facile d'avoir une activité physique dans la journée. Et donc ça, clairement, on peut aller chercher des sociétés qui sont spécialisées sur ces segments, comme Mips en Suède, qui fait des systèmes de protection dans les casques de vélo, ou encore Thule, une société suédoise également qui va faire tout ce qui est qui va équiper la famille moderne active pour ses activités de plein air à travers toute la famille.
Donc c'est un fonds qui est vraiment très international, dans le sens où en fait où c'est plein d'acteurs de niche qu'il faut aller chercher. Est-ce qu'il y a des acteurs où vous dites là c'est peut-être un peu trop tôt, ou en termes de valorisation ou en termes de profil c'est à éviter?
Alors, on a certaines contraintes, forcément, quand on gère un fonds action international, des actions cotées. Donc, on peut pas aller chercher des actions, des capitalisations boursières trop petites. Mais effectivement, cette pandémie et toute la période 2020-2022 a permis à des acteurs qui ne se seraient pas listés autrement de se lister, de faire appel au marché. Et donc, ça, clairement, ça peut être une opportunité pour des fonds comme M-Sport Solutions.
Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Kieffer, de faire un point sur cette thématique sport à moins de 3 mois des Jeux Olympiques. J'irai chez Montpensier Finance. Dans une poignée de secondes, il sera à 16h30. Très courte pause et puis on se reconnectera à la séance du jour. Un CAC 40 qui est au-delà des 8000 points, grâce notamment à L'Oréal, hein, qui est en tête du CAC 40, qui gagne quasiment 5%. Que faut-il penser de cette publication? Et puis nous reviendrons également sur le risque géopolitique. Est-ce qu'il est vraiment intégré par les marchés? On vous pose la question. Il vous reste encore quelques minutes pour répondre sur X et puis aussi sur LinkedIn. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Étienne Brac.
Et c'est reparti pour BFM Bourse, on est ensemble encore pendant 1h30 jusqu'à 18h pour vous accompagner dans cette séance de hausse aujourd'hui à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui grappille 0,1% au-delà des 8000 points, 8031 points. Comment regarder les niveaux techniques? Nous serons dans un instant avec Andrea Tueni qui nous attend depuis Saxo Bank. Du côté de Wall Street, c'est un peu plus mitigé, le Dow Jones prend 0,5%, mais vous avez un Nasdaq qui est sous pression, qui perd quasiment 1% avec Netflix. On va d'ailleurs parler de Netflix avec vous, Sabrina Sadghi. Bonjour Sabrina.
Bonjour Étienne.
Vous êtes journaliste pour notre site internet bfmbusiness.com. N'hésitez pas d'ailleurs à le consulter hein, sur la rubrique Bourse. On reviendra notamment dans un instant sur l'article qui a été dédié à L'Oréal, qui est la star du jour à la Bourse de Paris. L'Oréal qui est vraiment un poids lourd de la cote, qui permet au CAC 40 d'être dans le vert aujourd'hui. Hein. S'il n'y avait pas la hausse de 5% de L'Oréal, le CAC ne serait pas dans le vert.
Exactement, L'Oréal joue les amortisseurs hein, du CAC 40 aujourd'hui, qui se stabilise donc, comme vous l'avez dit, autour des 8030 points après avoir pris un peu peur et testé la zone des 7950 points avec la montée de l'aversion au risque hein, suite au dernier développement géopolitique. Bon, il y a quand même un petit climat de prudence aussi lié à l'orientation des taux. Est-ce que la Fed va baisser ses taux sur le calendrier de baisse de taux de la Fed? Est-ce que ça va être le cas en septembre ou en décembre? Donc, en beaucoup d'incertitudes et surtout après les derniers commentaires de plusieurs membres de la Fed à ce sujet concernant donc les taux de la Fed.
Incertitude géopolitique, incertitude monétaire. On reviendra notamment sur ce sujet monétaire dans 10 minutes avec Florian Roger de BNP Paribas, avec notamment beaucoup d'émissions à venir cette année aux États-Unis. Et il nous dira que le marché ne prend peut-être pas vraiment en compte eh bien, les milliards qu'auront besoin les États-Unis cette année sur l'obligataire. Andrea Tueni est avec nous depuis Saxo Bank. Bonjour Andrea, merci de nous accompagner en direct sur BFM Bonjour. Business, alors que c'est une séance technique aujourd'hui, séance à sorcière, ça amène du volume. Hein. Je crois qu'il y a un peu plus de 2 milliards d'euros négociés là à 1 heure du fixing.
Oui, il y a un peu de volume, il y a un peu plus de volatilité aussi sur ces marchés. On sent qu'il y a beaucoup plus de nervosité, des mouvements. Il y a pas mal de catalyseurs qui viennent jouer et perturber le marché et impacter, on va dire, la tendance. Vous en avez cité pas mal. Le risque géopolitique, évidemment, qui a largement impacté les marchés, encore une fois, très tôt ce matin et dans la nuit sur les marchés américains. On a toujours ces questions autour des politiques monétaires des banques centrales qui sont un éternel sujet. Là, on a des probabilités maintenant qui sont complètement effacées hein, pour une baisse des taux de la Fed au mois de juin. On se projette maintenant plutôt sur novembre, mais la BCE elle pourrait déjà intervenir dès le mois de juin. Donc du coup, il y a pas mal de divergences de politique monétaire qui sont en train de se jouer et qui provoquent du coup un repricing sur le marché et des flux qui sont un petit peu indécis. Mais ce qui est sûr et ce qu'on note, c'est quand même ce retour de la nervosité, de l'hésitation, un peu plus de prudence et une volatilité qui remonte un petit peu. On a une volatilité implicite sur le CAC proche de 19 qui remonte un petit peu, qui s'inscrit, qui s'établit un cran au-dessus. Mais par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a un indice CAC 40 qui résiste plutôt bien par rapport aux autres indices européens. Alors aujourd'hui c'est grâce à L'Oréal, mais si on regarde d'autres séances plutôt dans la semaine, c'est vrai que c'est cet indice CAC 40, il tient plutôt la route pour le moment. On voit des mouvements qui sont beaucoup plus violents sur les indices américains, notamment sur le Nasdaq. Donc c'est vrai que techniquement sur le CAC, on a une vraie zone de support qui est vraiment importante, c'est 7875. En dessous c'est 7812. C'est des niveaux qu'il va falloir à tout prix préserver pour maintenir une capacité de rebond sur le CAC. Et on a des niveaux de résistance aujourd'hui qui sont autour des 8060, 8120 points. C'est les niveaux de résistance aujourd'hui sur le CAC. C'est pareil compliqué d'aller au-dessus en l'état actuel des choses par rapport aux éléments que j'ai évoqués précédemment. Mais c'est vrai que quand on regarde plutôt sur les indices américains, notamment sur le Nasdaq, où on a un gros support cette fois-ci à 17120, 120, 130 à peu près, c'est un gros niveau de support. On est sur un support aussi sur le S&P, 5000 points en dessous, c'est 4950. On est vraiment sur des vrais niveaux techniques importants et des vrais niveaux pivots sur ces indices-là. Donc attention, s'il y a un décrochage plus important sur les marchés américains qui montre aussi des signes de fébrilité, de nervosité, il pourrait y avoir une réaction et on peut se poser la question de savoir combien de temps le CAC pourra résister et est-ce que la performance, très bonne performance de L'Oréal aujourd'hui va suffire à faire tenir le marché. Donc voilà, pour le moment, c'est vraiment cette zone 7875 qu'il faut surveiller. Si on passe sous ce niveau-là, là on a un risque de basculer sur des niveaux plus bas. On a avec un support intermédiaire à 7800 112, mais sinon c'est la zone des 7550 qu'il faudra aller chercher sur le CAC.
Pour rester avec nous, Andrea Tueni, dans un instant on parlera de Netflix qui prend le bouillon aujourd'hui à Wall Street après la publication de ses résultats. Mais justement, tant qu'on parle de la tendance, Sabrina Sadghi, on a posé une question aujourd'hui sur X et sur LinkedIn par rapport aux tensions qui sont intervenues cette nuit.
Alors, c'est soit oui, soit non. Et ben dans ce cas-là, moi, je dis non, parce que la géopolitique...
Alors là, on rappelle déjà
oui,
la question.
Voilà.
La question, c'était, est-ce que le marché a pleinement conscience et a pleinement intégré, anticipe-t-il correctement le risque géopolitique? Et donc, la réponse est non à quasiment 60%.
Et c'est la question, c'est la réponse que je partage aussi. Je dis non, parce que la géopolitique, ce n'est pas que les tensions, c'est aussi les élections. D'ailleurs, l'année 2024, ce sera une année électorale riche avec... pas moins de 40 scrutins. On a eu un scrutin, on va avoir un scrutin ce week-end en Inde, les élections européennes en mai, mais précédemment, on a eu par exemple les élections à Taïwan en début d'année ou en Russie. Et d'ailleurs, cette année, ça va être 20% de la population mondiale, soit 40% de l'économie mondiale qui va se rendre ou qui s'est déjà rendue dans les urnes en 2024. Et bien sûr, les regards seront tournés vers les États-Unis qui sont le cœur névralgique des marchés avec 60% de la capitalisation boursière globale. Et comme en 2020, le match sera très probablement Donald Trump et Joe Biden, qui ont des avis d'ailleurs très divergents sur nombreux sujets, notamment la guerre en Ukraine ou une action en faveur du climat. Donc la géopolitique, attention aux échéances électorales à venir cette année, dont la principale, bien sûr, les États-Unis en novembre.
Le marché anticipe-t-il correctement le risque géopolitique? Oui ou non, selon vous, Andrea Tuoni? C'est vrai que ce matin, avant 9h, on pouvait se dire, tiens, comment va réagir le marché? Est-ce que le pétrole aura un impact sur la séance? Bon, finalement, le pétrole, il est stable. Le CAC 40, il avance très légèrement. L'euro progresse. Et vous avez même l'obligataire qui est stable aujourd'hui.
En fait, ce qui se passe dans ce genre de situation, dès que la géopolitique entre en jeu, c'est qu'il y a généralement des surréactions sur le marché. On a un marché qui est très sensible aux nouvelles. Donc, dès qu'il y a une nouvelle, comme ce qu'il y a pu avoir dans la nuit, on a des réactions qui sont généralement assez violentes. On l'a vu sur les futurs américains. On l'a vu aussi sur des devises ou des devises refuges, comme le dollar était plutôt recherché. On l'a vu aussi sur les taux. Il y a eu des réactions assez fortes, mais c'est vrai qu'on est revenu. On a quasiment effacé ces mouvements, en tout cas sur les devises, sur les taux, où on a aussi un petit peu effacé les mouvements. On est revenu sur une situation beaucoup plus calme, parce qu'encore une fois, il y a une sensibilité très forte aux nouvelles et les nouvelles, elles se veulent pour le moment plutôt rassurantes. On n'anticipe pas tout de suite, en tout cas de manière imminente, une escalade ou une surenchère dans ce risque géopolitique. On a un pétrole, du coup, là aussi, qui est après avoir monté et redescendu. On a des cours qui sont repassés sous les $90, par exemple, sur le Brent. Donc, du coup, il y a un apaisement pour le moment des tensions, mais ça reste un risque qui est extrêmement palpable et généralement, dans ce genre de situation, comme je l'ai rappelé, les marchés vont surréagir au début avant de se fixer, se stabiliser sur un niveau ou rattraper si jamais il y a plus d'inquiétudes ou les inquiétudes sont éteintes. Donc voilà, pour le moment en tout cas, on a une grosse sensibilité aux nouvelles et ça peut provoquer des risques de surinterprétation et des mouvements assez violents sur le marché. Donc il faut rester extrêmement vigilant et c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de prudence, beaucoup plus de nervosité aujourd'hui sur les indices.
Et donc le CAC 40 qui étale aujourd'hui grâce notamment à L'Oréal, on en reparlera dans 5 minutes, hein, Sabrina, vous avez fait un article sur bfmbourse.com à propos de L'Oréal qui est la star du jour. Par contre à Wall Street, il y a une valeur qui prend un bouillon aujourd'hui, Sabrina, c'est Netflix avec la publication de ses résultats hier soir qui visiblement douche les investisseurs.
Et oui, Netflix perd 8%. Et d'ailleurs, Andrea, si vous avez par exemple des valeurs et surtout des seuils techniques à surveiller sur Netflix qui perd 8%.
Alors oui, c'est vrai que sur Netflix, il y a une sanction pas par rapport aux résultats en tant que tel, mais plus par rapport aux prévisions, aux projections, parce que les résultats sont plutôt bons. Hein. Si on regarde sur Netflix, le nombre d'abonnés a augmenté plus fort que prévu, les revenus par action ont augmenté aussi plus fort que prévu. Donc c'est vraiment les projections qui ont déçu et qui provoquent une baisse assez importante du titre. Et alors il y a deux niveaux de support. Malheureusement, c'est des niveaux qui ont été cassés, $575, $567. C'est des niveaux qui ont été cassés. Donc si on a une clôture en dessous de ces niveaux, on rentre vraiment dans une dynamique baissière sur le titre, dans un retournement plutôt baissier où on peut aller chercher des niveaux comme $537, $530 à peu près sur le titre. Si on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau, donc à se rattraper plutôt sur la deuxième partie de séance vers la clôture, ce qu'on a déjà vu sur des valeurs américaines, c'est assez typique en fin de séance d'avoir des rattrapages, des retournements de situation, et si on s'inscrit au-dessus de ces niveaux de support, donc au-dessus des $575, on peut espérer que le titre se stabilise revienne du coup un cran au-dessus, se stabilise autour des 590, 600 et pourquoi pas revenir au-dessus des $610, niveau auquel il était il y a encore quelques séances, voire même hier.
Merci beaucoup Andrea Tioni de nous avoir accompagné aujourd'hui depuis Saxo Bank avec donc ce titre Netflix qui est sous pression. C'est d'ailleurs l'objet de notre Factor X, hein, Sabrina Sadghi, hein, tous les jours on met en avant un tweet sur le réseau social X avec aujourd'hui un tweet de Charles Janus, hein, que vous avez sélectionné, qui revient sur cette publication au-dessus des attentes, hein, au premier trimestre pour Netflix, avec notamment un nombre d'abonnés qui est ressorti au-dessus des attentes.
Oui, il y a le nombre d'abonnés qui est ressorti nettement au-dessus des attentes, et surtout le groupe a recruté plus, quasiment deux fois plus d'abonnés que prévu par les analystes. Le revenu abonné par moyen par abonné aussi est supérieur aux attentes. Par exemple aux États-Unis il est de $17.30, hein, là où on attendait $16 à peu près. Et Netflix a profité notamment de l'introduction d'abonnements avec publicité. Et aussi, bah, la chasse aux comptes multiples a été aussi payante. Les résultats à proprement parler sont plutôt bons, hein, et supérieurs aux attentes. Mais les perspectives annoncées par Netflix au deuxième trimestre sont inférieures aux attentes. Ce qui a déçu le marché, que ce soit surtout au niveau revenu. Hein, il s'attend aussi à un recrutement d'abonnés inférieur au deuxième trimestre qu'au premier. D'ailleurs, à ce sujet, Netflix a annoncé qu'il ne publierait plus ses recrutements d'abonnés par trimestre, ni son revenu moyen par abonné, et ce, à compter de l'exercice 2025. Alors pourquoi ? Parce que son dirigeant a expliqué vouloir se concentrer sur les mesures d'engagement de l'audience. En fait, l'engagement de l'audience, c'est le temps passé sur Netflix, hein, sur ses contenus, parce que selon lui, ça reflète mieux la capacité de la plateforme à fidéliser, à séduire et donc à générer, je cite, de l'engagement, des revenus et des bénéfices. Nos étoiles polaires.
Alors c'est quand même assez amusant de voir que même une publication au-dessus des attentes n'arrive pas à satisfaire Wall Street, avec peut-être ce manque de transparence à venir par rapport aux abonnés, hein, qui ne seront plus communiqués, le gain d'abonnés.
C'est ça.
Avec, comme vous l'avez dit, combien ? Plusieurs millions d'abonnés, hein, 16%, hein, 16% d'abonnés en plus, oui, pour Netflix, avec notamment cette stratégie de la fin des partages des comptes.
C'est ça, tout à fait. La fin des partages des comptes, logiquement, ça va pousser les abonnés complètement accros à Netflix à vouloir s'abonner malgré tout, malgré cette interdiction des partages de comptes.
Et donc Netflix qui est sous pression aujourd'hui, qui pèse sur l'indice Nasdaq. Voilà donc pour cette valeur. Autre valeur à surveiller aujourd'hui à Paris, cette fois, c'est L'Oréal, hein, qui est en tête de l'indice parisien, avec des résultats qui sont bien au-dessus des attentes. On parle uniquement des ventes, hein. C'est pas comme Netflix. L'Oréal a uniquement annoncé son chiffre d'affaires.
Pour l'instant, on parle que du chiffre d'affaires du premier trimestre de L'Oréal, qui est supérieur aux attentes, et ce qui permet aussi d'ailleurs, et on l'a dit en préambule de cette émission, de limiter la casse sur le CAC 40 malgré le bruit géopolitique. De janvier à fin mars, le groupe a dégagé des revenus de un peu plus supérieurs à 11 milliards d'euros, en hausse de 9,4% en données comparables. Là, le consensus n'attendait que 6%, ce qui est déjà pas mal. L'Europe et les États-Unis ont permis à la croissance de L'Oréal d'être aussi dynamique, hein, mais l'Asie du Nord reste encore à la traîne. Hein, cette région qui comprend la Chine a enregistré un recul de ses ventes en données comparables d'un peu plus de 1%, là où le marché attendait un recul beaucoup plus limité de 0,3%, donc au premier trimestre. Alors L'Oréal est encore pénalisé par la faiblesse du travel retail, ce qui est les ventes dans les gares ou dans les aéroports, et qui pâtit depuis plusieurs trimestre de l'offensive du gouvernement chinois contre le marché gris. C'est ce qui explique aussi que la division luxe a légèrement manqué les attentes, mais pour autant, hein, ce qui a été compensé par le dynamisme de la vente des biens grand public.
Oui, bien grand public qui cartonne, hein, idem pour les produits professionnels, c'est et ça, c'est salué par les analystes.
Tout à fait. Parmi les analystes qui ont salué la publication, on peut citer Royal Bank of Canada qui évoque un trimestre soutenu. De son côté, Alpha Value salue un début d'année encourageant et renforce donc sa confiance sur le titre et sur le dossier pour 2024. Pour Stifel, la croissance élevée de L'Oréal au premier trimestre, malgré un contexte de marché difficile en Chine, démontre la qualité et la puissance du modèle économique de L'Oréal. Odo, de son côté, juge ce premier trimestre très dynamique et prend à contre-pied la prudence du marché récemment sur le dossier.
À l'inverse, Deutsche Bank est un peu plus prudent, sachant que, rappelons-le, c'est l'une des valeurs qui est la plus chère, hein, du CAC 40 en termes de PE.
Tout à fait, Étienne. D'ailleurs, Deutsche Bank a titré sa note. C'est impressionnant, Mais après, trois petits points. La banque souligne que la direction de L'Oréal a fait preuve de prudence durant sa conférence téléphonique. Parmi ses motifs de prudence, hein, c'est la demande sous-jacente en Chine qui va rester modérée et un marché de masse américain qui va subir une certaine pression. Et Deutsche Bank continue par ailleurs à percevoir des interrogations structurelles sur la croissance chinoise.
Et voilà donc pour ce dossier L'Oréal qui cartonne aujourd'hui dans le CAC 40. À noter qu'on était il y a trois quarts d'heure pile d'ailleurs avec Abdel Redjeb de Montségur Finance, qui était assez prudent hein, par rapport à cette valeur L'Oréal, à cause notamment des niveaux de valorisation. Hein, typiquement, ça se paye plus cher que LVMH. Et puis, restez avec nous, puisque dans moins d'une heure, hein, juste après la clôture à la Bourse de Paris, eh bien, on fera un match entre Julien Marion, votre collègue de bureau, oui. Sabrina, de notre site internet BFM Bourse, et puis les équipes de Inextenso, avec d'un côté eh bien, un avis positif sur L'Oréal, et puis de l'autre côté, bah, Julien, qui sera un petit peu plus mesuré par rapport à cette publication de L'Oréal, et puis surtout, comme vous l'avez dit, bah, l'activité en Asie qui continue d'être complexe. Hein, ça rejoint un petit peu le discours de LVMH en début de semaine. 16h45, tout de suite, on a le plaisir d'accueillir en plateau Florian Roger, qui est avec nous, responsable de la stratégie d'investissement chez BNP Paribas CIB. Bonjour Florian, merci d'être avec nous sur BFM Business. Bienvenue en plateau. Vous venez un petit peu plus tôt, on vous retrouvera dans le club à 17h, mais juste avant, je voulais vous inviter pour prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui se passe d'un point de vue monétaire avec, eh bien, on l'a encore vu hier, les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont robustes aux États-Unis. Jerome Powell, mardi, lors d'une table ronde à Washington, qui dit très clairement on n'est pas très à l'aise avec les données de marché. Et puis, dans le même temps, en dehors des baisses de taux, les États-Unis qui vont devoir se refinancer d'une façon colossale cette année afin d'alimenter ce train de vie qui, rappelons-le, est dans une période cruciale avec la période électorale.
C'est ça, vous avez résumé plein de choses. On a effectivement une situation plus compliquée pour la Fed. Si on prend un peu de recul, en 2022 et 2023, l'objectif clé de la Fed, c'était d'ancrer les anticipations d'inflation et de juguler l'inflation, qui était montée en juin 2022 à 9,1%. Quand on est arrivé sur la fin de l'année 2023, on avait un niveau d'inflation qui n'était pas à l'objectif, mais qui était autour de 3,5%. Donc il y avait une grosse partie du travail qui était déjà réalisée. Et ce qui se projetait sur 2024, c'était un nouveau challenge pour la Fed. C'est ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de refinancement. Beaucoup d'entreprises se sont financées pendant la crise du Covid, donc j'avais beaucoup plus de dettes qui arrivaient à maturité sur 2024-2025. On a eu un creusement du déficit public pendant la crise du Covid. On n'a pas de consolidation budgétaire, donc on a beaucoup d'émissions publiques. Et du fait de l'inflation, les banques centrales ont dû faire des politiques de quantitative tightening, donc en fait vendre des actifs dans le marché qui doivent trouver preneur. Et le pivot de décembre, vraisemblablement, était pour aider au financement de l'économie américaine. Et ça a très bien marché. Si vous regardez les émissions brutes aux États-Unis sur les bonnes signatures investment grade plus le high yield, on fait plus de 600 milliards au premier trimestre 2024. C'est un record depuis 10 ans si on enlève la période du Covid. Donc la Fed, en pivotant sur le mois de décembre, a énormément facilité le financement, mais a dépriorisé l'inflation. Le marché s'est dit « Oh, la Fed est en train de pivoter en décembre, ils sont hyper confiants sur l'inflation ». Non, je pense qu'ils savaient en fait que le dernier kilomètre de désinflation va être compliqué parce que la situation du marché du travail est tendue aux États-Unis, mais le marché avait anticipé un peu trop rapidement la désinflation. Donc on a eu deux chiffres en janvier-février qui étaient au-delà des attentes sur l'inflation. Il y a un mois, on avait discuté ensemble de la réunion de la Fed. Bon, lors du FOMC, la Fed avait dit on va quand même baisser les taux, a priori en juin. Le problème là, c'est que depuis, il y a l'augmentation des prix des matières premières. Et quand vous avez un marché du travail tendu, une augmentation des prix des matières premières peut entraîner des effets de second tour. Et c'est ça qui gêne en fait aujourd'hui la Fed. Et donc, mardi dernier, Jérôme Powell nous a dit vraisemblablement on va être obligé d'attendre plus longtemps que le mois de juin.
Et le président de l'antenne de New York, hein, John William, a remis une louche en disant si les données le nécessitent, on n'hésitera pas à remonter les taux. C'est quand même la première fois qu'un membre de la Fed met ça sur la table. On est quand même dans un changement de paradigme total en l'espace de 4 mois.
Alors, en termes de scénario central, je trouve que la barre pour remonter les taux est encore quand même assez loin. C'est-à-dire que ce serait mal compris par les marchés d'avoir une baisse de taux qui entraîne une remontée des anticipations d'inflation. Donc effectivement, ils sont obligés de décaler en fait la première baisse de taux. Maintenant, c'est ce que vous indiquiez tout à l'heure, et on l'a vu dans le World Economic Outlook du FMI publié cette semaine, on va avoir énormément d'émissions publiques sur les prochaines années. On est à 12,5% du PIB en fait par an. On a une montée de la charge d'intérêt. Et donc, La dette privée a été refinancée, on a un peu déconstruit le mur de maturité, mais sur la partie publique, il y a encore beaucoup de financement. Et donc, en équilibre, je pense que le prochain mouvement reste quand même baissier. Il est simplement décalé, mais à mon avis, on aura quand même une baisse de taux avant l'élection présidentielle.
Et en termes de taux, là, sur le 10 ans américain, on est à 4,6. C'est assez amusant d'ailleurs de voir que le taux court, le 2 ans, est à 5%. Donc pour l'instant, ça paye plus le taux court. Cette inversion de la courbe des taux, c'est marrant, mais on n'en parle plus du tout. Le marché s'est totalement accommodé. Comment ça va se passer là cette année, dans le sens où on entend pas mal d'analystes, d'intervenants nous dire il y aura tellement de milliards à refinancer qu'il y aura peut-être un problème dans le sens où la demande ne va pas suivre. Comment vous voyez-vous aujourd'hui la situation chez BNP Paribas, CIB?
C'est pour ça que la Fed va quand même baisser ses taux, selon nous, en fait, sur l'année 2024, parce qu'on a cette problématique de financement qui reste. Sur la partie obligataire, là, on est quand même dans une phase, selon nous, un peu de surréaction. Parce que justement, le marché anticipe plus tellement de baisse de taux. On voit des acteurs qui nous disent qu'il n'y aura pas de baisse de taux en fait sur l'année 2024. Or, selon nous, il y aura une baisse de taux qui va arriver. Le juge de paix, ça va être aussi la conjoncture. C'est-à-dire que là, on a une croissance qui reste très forte sur le premier trimestre. Mais à partir du deuxième trimestre et surtout du troisième trimestre, les effets de l'assouplissement des conditions monétaires et financières qui avaient entraîné le pivot de la Fed au mois de décembre vont se dissiper. Donc j'aurai moins d'élan dans ce sens-là. Je vais avoir une politique budgétaire qui va moins soutenir la croissance. Et ça y est, les ménages américains ont épuisé leur excédent d'épargne. Or là, j'ai une augmentation des prix du pétrole. C'est un problème de pouvoir d'achat. Donc au T1, il y a une phase de reflation en fait de l'économie mondiale. La Chine a été au-delà des attentes. L'Allemagne, on l'a vu sur la production industrielle, c'est mieux. Les États-Unis, ça tient très bien. Donc on a une prudence de la Fed sur la désinflation. Le côté cyclique sur le T2, T3 aux États-Unis devrait être quand même un petit peu plus faible et rassuré sur le côté en fait diminution des taux longs selon nous.
Et l'inflation, vous la voyez comment, la trajectoire dans les prochaines semaines, sachant que pour l'instant on a les résultats du premier trimestre qui montrent que les entreprises en ont encore sous la pédale, ils arrivent encore à augmenter les prix. On le voit aujourd'hui avec Procter & Gamble. Alors c'est des secteurs très différents, c'est peut-être des niches, hein, mais Amex publie des résultats largement au-dessus des attentes, les compagnies aériennes sont hyper positives. Enfin, pour l'instant, les marges, elles ne sont pas comprimées, elles continuent de s'étendre via notamment des hausses de prix.
Ce qu'il faut bien avoir en tête, en fait, sur la désinflation américaine attendue sur l'année 2024, c'est que 2/3, c'est l'immobilier. Dans l'indice CPI américain, on a un poids de la composante qu'on appelle shelter, en fait, qui sont les loyers, qui représente 30%. Et sur l'inflation immobilière, on est quasiment à 6%. Donc, la désinflation immobilière est plus compliquée parce que la situation du marché du travail est meilleure. Et donc, si vous avez plus de revenus, vous pouvez payer des loyers plus importants. Néanmoins, quand on regarde les indicateurs avancés immobiliers, ça montre une désinflation. Et là, on a une remontée des taux longs. Et donc, cette remontée des taux longs risque quand même de recasser un petit peu la dynamique immobilière et permettre quand même que la désinflation se réalise.
Donc, pour vous, la désinflation, il n'y a pas de risque de second tour avec une inflation qui devrait remonter fortement dans les prochains mois?
La Banque centrale va contenir les risques de désancrage des anticipations d'inflation. Et selon nous, la désinflation va quand même se poursuivre, notamment en fait via l'immobilier.
Sabrina.
Oui, et surtout qu'aujourd'hui, enfin, cette année, c'est quand même une échéance électorale assez importante avec les élections américaines. Comment la Fed va pouvoir naviguer avec cette échéance à venir?
Avant l'élection présidentielle, comme on disait tout à l'heure, si on veut éviter des tensions sur les taux longs parce qu'il y a beaucoup d'émissions publiques, je pense qu'il faudra baisser les taux. Donc, je le disais précédemment, il ne faut pas baisser les taux, la répercussion, ce soit une augmentation des taux longs. Baisser les taux courts et faire monter les taux longs, la compréhension de la politique monétaire serait mauvaise à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que la Fed patiente un petit peu. Mais je pense qu'ils ont quand même en tête de baisser les taux sur l'année 2024. Et avec une croissance qui, cycliquement, va ralentir sur le deuxième et troisième trimestre, à mon avis, l'ancrage des anticipations d'inflation sera plus facile à ce moment-là. Et donc, on aura des baisses de taux. Avoir potentiellement deux baisses de taux avant l'élection présidentielle, c'est absolument pas impossible aujourd'hui. Donc, juin, maintenant, la probabilité est faible. Mais avoir juillet et septembre, c'est absolument pas impossible.
Oui, c'est vrai que la hausse de la baisse de taux au mois de juin, elle est totalement enterrée. Je voyais hier FedWatch, 15% maintenant. C'est dingue comment, en l'espace d'un mois, ça s'est inversé à une vitesse hallucinante. En termes de scénario, est-ce que vous croyez également au scénario qu'il n'y en aurait pas du tout? Parce que c'est vrai quand même que maintenant, il y a cette
quand
petite musique qui revient.
Ouais,
c'est là où il y a une petite surréaction du marché. Et autant on décale, encore une fois, il y a quand même une problématique de financement qui reste. Et la croissance va quand même se calmer sur le T2, T3. pour nous, il y a une phase un peu de surréaction en fait du marché avec cette anticipation une baisse de taux en fait là. Selon lui, il y aura un petit peu plus et le côté cyclique en fait va ramener un peu à la réalité. Là, la hausse des taux longs devrait quand même mordre sur la conjoncture.
On en reparlera dans un instant, mais vous êtes responsable de la stratégie d'investissement. Pour l'instant, cette situation, elle n'est pas favorable quand même au marché actions, dans le sens où vous retrouvez du 2 ans américain à 5%, le monétaire qui pour l'instant ne baisse pas comme il n'y a pas de baisse de taux, les investisseurs sont quand même toujours payés à attendre.
Pour l'instant, il y a effectivement des prises de profit qui s'opèrent parce que il y a un changement d'anticipation pour la Banque centrale. Et n'oublions pas qu'on restait depuis le pivot sur une hausse du marché de 20%. Donc en fait, il y avait une repondération des actifs risqués suite au pivot parce que les gens avaient été trop pessimistes, globalement, sur l'ensemble des actifs risqués. On était arrivé à un moment où finalement, il y avait un peu trop de complaisance, vraisemblablement vis-à-vis de l'inflation. Voilà, il y a une normalisation. Selon nous, on a quand même plus de croissance aux États-Unis. On aura effectivement une Fed qui va baisser ses taux d'intérêt. Donc, on n'a pas l'idée, en fait, qu'on passe sur une phase de correction qui soit quand même très importante aujourd'hui.
Sur le marché action.
Sur le marché action.
Avec le S&P 500 qui est aligné hier soir, 5 baisses dans le rouge. Alors bon, c'est pas des grosses baisses, on n'est pas sur 1%, mais ce n'était pas arrivé depuis octobre dernier. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Florian Roger, vous restez avec nous, puisque dans 5 minutes, c'est le club. On reviendra notamment bien sur ces tendances monétaires et puis aussi sur le risque géopolitique. On a posé une question, Sabrina, sur les réseaux sociaux. Est-ce que le risque géopolitique est correctement pricé actuellement? Vous répondez non à plus de 60%. Et puis, il y a quelques minutes, on revenait sur cette publication de L'Oréal avec un article, Sabrina, qui est sur le site internet, qui revient en détail sur cette publication et pourquoi L'Oréal gagne quasiment 5%. En tout cas, la publication de L'Oréal permet à l'indice parisien d'être dans le vert et puis surtout de retrouver les 8000 points, de s'installer au-delà. 8025 points à l'instant, alors que du côté de Wall Street, c'est beaucoup plus mitigé. Le Dow Jones gagne 0,5%, mais le Nasdaq cède 0,7%. On rentre dans le détail dans un instant sur la séance du jour. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.